Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 32, à Liepāja, avec les Russes de Lettonie.
Full Continental. Caroline Gillet, sur France Inter et la RTBF.
Je suis sur le parking de la gare routière de Liepāja, devant l'arrêt numéro 1. C'est de là que part le bus de 19h45 pour Riga. Il est 19h40, nuit noire, la gare soviétique est dans mon dos, et devant, dans le parking, je devine que certaines voitures sont occupées. Dans l'une d'elles, quelqu'un écoute du métal. Il bruine. Il reste 5 minutes pour manger le burger barbecue de chez City Burger, fabriqué avec du bœuf laiton, m'a-t-on dit. C'est ce que j'ai trouvé de plus local. Je repense à l'éleveuse de vaches laitonnes que j'ai rencontrée la veille, elle vous l'entendrez dans un prochain épisode. Mais donc ce burger, c'est une tuerie avec sauce et oignons caramélisés. Mais ils ont oublié de donner une serviette. Qui a un jour mangé un burger sait que la situation peut devenir tendue, et c'est à ce moment-là que le bus arrive, qu'une dizaine de personnes en sortent et sont témoins de mes pitoyables acrobaties. J'attends encore, je passe aux frites maillot. Je commence à me dire que Liepāja, c'est un peu comme Knokke-le-Zoute, cette ville côtière de Belgique, et cette idée, sous la pluie, dans le noir de cette ville portuaire de Lettonie, me plaît pas mal. Comme toutes les métaphores, elle est un peu tirée par les cheveux. Mais voyez-vous, en Lettonie aussi, il y a deux communautés linguistiques et culturelles qui cohabitent. Les Lettons, majoritaires, et les Russes, qui représentent environ 30% de la population. Évidemment, la situation n'a rien à voir, mais j'ai retrouvé, ici, comme en Belgique, cette peur de perte d'identité, cet attachement si particulier qu'on peut avoir à une langue qu'on veut défendre et transmettre, un attachement très intime. Timours, lui, dit carrément qu'il y a deux nations en Lettonie. Lui vient d'une famille russe, mais quand on lui demande s'il est letton, il répond avec fermeté que oui. Ses parents, également nés en Lettonie, eux, hésitent. On va parler de tout ça. Mais d'abord, on reprend le trajet dans l'autre sens. On revient à ce matin, au trajet de l'hôtel de Riga jusqu'à la gare routière, et puis de la gare routière jusqu'à la ville de Liepāja, celle qui ressemble un peu, pour me faire plaisir, à Knokke-le-Zoute, même si en vrai, pas du tout. On retourne donc 12 heures en arrière, parce que c'est la radio, et on a le droit.
What's your name?
Alex.
Je suis dans un taxi. Alex, 28 ans, m'emmène à la gare routière. Je ne sais plus comment la conversation démarre, mais en gros, il me dit qu'il fait partie de la communauté russophone, qu'il a été dans une école russe, et qu'il parle donc le letton comme l'anglais. Il se débrouille, pas plus. Or, dans la vie courante, dans les magasins, quand il essaye de parler russe, souvent on lui demande de passer au letton. Il trouve ça injuste. Il dit « Ça fait 400 ans que les Russes vivent à Riga, pourquoi on ne me laisse pas parler russe ?» Il dit même, pour que je comprenne, c'est un peu comme les homos, ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ne me demandent pas de faire pareil. Faut pas demander aux gens d'être ce qu'ils ne sont pas. Comme moi, Alex fait des métaphores qui ne tiennent pas vraiment la route, ou qui sont même carrément douteuses. Je lui demande son numéro de téléphone pour poursuivre la conversation à mon retour de Liepāja. On va parler donc dans cet épisode de la jeunesse qui est à cheval entre l'Europe et la Russie. On ne va pas en parler dans une chambre avec Alex et du vin. Je pars rencontrer Timours, qui est dans cette ville portuaire de Liepāja et qui a accepté de me présenter ses parents.
Liepāja?
Pour aller à Liepāja, c'est 3 heures de bus.
One ticket?
Yes, please.
Il y a une petite télé dans le bus où défilent des vidéos au ralenti et en gros plan de fleurs qui fleurissent puis fanent. Il y a aussi des vidéos gags de pingouins qui dérapent sur la glace et des pubs pour la randonnée équestre en Lettonie. Par la fenêtre, il y a des forêts, des lacs, des éclaircies parfois. C'est beau. Je vous propose de superposer à ce paysage dans vos têtes quelques éléments de contexte. Voilà Kevin Limonier, il est maître de conférences à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8. Je lui ai demandé s'il y avait un rapport particulier dans les pays baltes avec le voisin russe par rapport, par exemple, à ce qui peut exister entre la Russie, l'Ukraine et les autres pays frontaliers.
Oui et non. Ça n'est pas un rapport singulier dans la mesure où les pays baltes comme l'Ukraine et comme l'Asie centrale font partie de l'ancienne Union soviétique, sont des anciennes parties de l'Empire soviétique et avant ça de l'Empire russe. Et donc, de fait, ce sont des États qui ont acquis leur indépendance plus ou moins récemment et qui sont dans des entreprises de construction, de nation building, on dit, qui sont encore en cours. Ça, c'est pour le volet commun. Maintenant, la particularité des pays baltes réside beaucoup dans l'histoire récente de ces pays-là, puisqu'il faut savoir que les pays baltes sont russes depuis à peu près le XVIIIe siècle, lorsque Pierre le Grand, contre les Suédois, annexe ses provinces, etc., qui vont rester dans l'Empire russe pendant un petit moment. La noblesse balte, germano-balte, les anciens teutons vont être intégrés dans la noblesse impériale. Bon, ça se passe, le XIXe siècle se passe assez bien. Et puis arrive la révolution bolchévique. Au moment de la révolution bolchévique, les pays baltes prennent leur indépendance. Ils vont rester indépendants jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline décide de les envahir. Et c'est là que les ennuis commencent. Puisque pour les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens aujourd'hui, toute la période passée sous domination soviétique est une occupation. Au même titre que l'occupation allemande qui a eu lieu dans ces provinces-là, dans ces pays-là, pendant la Seconde Guerre mondiale. De fait, il y a une histoire extrêmement complexe, extrêmement meurtrière, puisque lorsque les soviétiques envahissent les pays baltes, ils déportent énormément de gens au goulag, en Sibérie, et donc le souvenir de cette période est particulièrement vivace. Ce qui explique aujourd'hui en partie une tension identitaire, une tension géopolitique qui est également due au fait que les pays baltes, si vous considérez leur taille par rapport à celle de la Russie, c'est des timbres-poste. Pour leur permettre de vivre à l'ombre d'un tel géant qu'est la Russie, vivre en indépendance par rapport à ce géant qui vous a soumis pendant des siècles, il faut un peu d'inventivité. L'inventivité balte, ça a été de se réclamer un petit peu du monde baltique et du monde scandinave, par exemple. Ce sont des pays qui ont très rapidement coupé énormément de liens avec la Russie et se sont quasiment connectés au réseau d'échanges suédois, finlandais, etc. etc. Et ces tensions, elles sont allées crescendo depuis le moment où les pays baltes sont rentrés dans l'Europe, depuis le moment où les pays baltes sont rentrés dans l'OTAN, puisque la Russie ne voit pas du tout d'un bon œil cette extension d'une organisation de défense qui avait été créée à son encontre. Et aujourd'hui, bien évidemment, les pays baltes jouent beaucoup de cette menace russe pour maintenir leur influence internationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. C'est-à-dire, quand vous êtes les pays baltes, avec l'histoire qui est la vôtre, il est normal, il est légitime de s'inquiéter, surtout quand on voit le déséquilibre de puissance. Mais aujourd'hui, les pays baltes jouent un petit peu un rôle de
vigie.
Par rapport aux ambitions de la Russie. Et bon, après, on doit dire aussi que parfois, nos amis baltes ont tendance à être très alarmistes et à alerter de manière très alarmiste leurs alliés occidentaux, mais ce qui se comprend aussi.
Voilà, 3 heures sont passées, on arrive à Liepāja. Liepāja, c'est un peu comme le Far West, croisé avec un port soviétique délaissé. Quand on sort de la gare, on longe une longue avenue, bordée de maisons faites de lattes de bois, certains mal en point, la couleur s'écaille. On est dans un western. Voilà Timurs.
Au début du XXe siècle, c'était une très riche ville de l'Empire russe. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait le ferry, le bateau, ouais, qui partait de Liepāja à New York. On pouvait aller comme ça. Et il y avait beaucoup d'immigrés russes, juifs, qui ont allé d'ici aux États-Unis. Par exemple, Mark Rothko, qui était né à Daugavpils, qui est à l'ouest de Lettonie.
Et puis, on arrive sur le canal. À gauche, il y a City Burgers, et de l'autre côté du canal, une monumentale salle de concert, comme une soucoupe volante couverte de vitres couleur ambre. La salle a été construite en 2015 pour l'Orchestre Symphonique de Liepāja, qui fête lui sa 137e saison. C'est l'orchestre le plus ancien des pays baltes.
Les gens de Riga sont très très jaloux.
Timurs a 30 ans. Il a emménagé là depuis Riga il y a 2 ans et il est directeur de ce centre culturel régional qui est un des 3 du pays. Quand je m'en étonne, il dit qu'il a pu arriver à ce poste très jeune parce qu'en Lettonie, les compétences de nouveau sang, comme il dit, apportent quelque chose qui manquait aux générations d'avant, celles qui ont eu une éducation soviétique. Les jeunes comme lui sont plus ouverts sur le monde, parlent plus de langues et ont donc plus d'opportunités plus jeunes.
C'est le festival qui débute ce soir. On attend beaucoup de gens ce soir. Je vais juste dire bonjour à Yoga.
Oui, bien sûr.
Vous allez voir, statistiquement, c'est l'émission où jusqu'ici, il y a eu le plus de dons de cadeaux. Il y en aura un second, si ça, c'est pas du teasing. C'était beau, c'était quoi?
C'était Tchaïkovski. Les variations sur Rococo et Misha Maïski qui était soloiste.
Il est letton?
Il est né en Lettonie, il étudie en Lettonie, mais il est superstar international.
On s'installe pour discuter avec Timours. Il me propose qu'ensuite on rencontre ses parents et son oncle. Ils sont arrivés la veille pour le week-end. Et d'ailleurs, il les a emmenés au théâtre voir un spectacle en letton. C'était leur première fois. Et ils n'ont rien compris.
Mon oncle s'est endormi, mais...
Il me raconte cette anecdote parce qu'il sait bien sûr que c'est de ça qu'on va parler ici, des deux communautés. Lui se sent un petit peu comme un transfuge. Ses deux grands-mères sont arrivées de Russie, son grand-père de Biélorussie, d'un petit village, après la Seconde Guerre mondiale.
Ma grand-mère dit qu'en fait, il n'y avait rien à manger après la guerre, donc ici, il y avait le travail. Bon.
Cette grand-mère a rencontré son grand-père à l'usine. Ce grand-père qui, lui, était letton.
Les années 20 et 30, donc, la Lettonie était très, très européanisée. Ce qu'on voit déjà dans la culture, dans l'architecture, très, très attaché aux valeurs européennes, aux valeurs artistiques, aussi aux connaissances européennes.
Timours me dit qu'il remarque une différence entre le côté letton et le côté russe de sa famille.
Quand je vois les photos, je peux comparer les photos de ma grand-mère du côté de mon père des années 20 et 30, quand c'était compris qu'il était très western style, il connaissait qu'est-ce que ça veut dire la mode, il était vraiment européen, tu peux voir ça dans les photos. Et quand tu vois les photos de ma famille qui venait de Russie, tu pouvais voir qu'il connaissait rien, ce que ça veut dire. Donc c'était vraiment de loin. Tu peux voir la différence déjà.
Timour s'est grandi dans un quartier russe de la banlieue de Riga.
Qui s'appelle Bolderaï. C'est un endroit qui est à peu près 12-13 km du centre-ville, à côté de la mer, pas loin de la mer.
Il faut savoir qu'à Riga, il y a la plus forte concentration de russophones du pays, environ 50% de la population.
Pendant le temps soviétique... Il avait aussi une base militaire, ce qui influençait le statut social des gens qui habitaient là-bas. C'est un endroit un peu, bon, voilà, je dois dire un peu dépressif, mais il y a aussi très très russophone. Il y a plusieurs écoles russes et juste une école lettonne.
Et comment est-ce que tes parents sont arrivés là-bas?
Mes parents sont nés en fait en Lettonie pendant les années 60. Je pense qu'aux années 90, quand c'était le temps des privatisations et quand toutes les familles militaires étaient parties de Lettonie, l'État distribuait les endroits pour habiter. Et donc, comme ça, ils proposaient que vous pouvez aller à Bolderaï. Ils ont accepté ça. Et voilà.
Ça ressemble à quoi par la fenêtre, par exemple, de ta chambre?
Oui, par la fenêtre de ma chambre, c'était les immeubles soviétiques, assez carrés, qui sont partout et...
Qui n'ont pas toujours bien vieilli.
Non, pas du tout, non. Mais c'est ce qui, pour moi, c'était très important, qu'il avait l'école de musique, qui est assez bien à Riga. Je me rappelle quand tu sors des bus, mais quand tu entrais à l'école de musique, c'était oh, « je suis chez moi, c'est bien ». Donc je me sentais très, très sûr à l'intérieur de ce bâtiment, de cette école. Toute ma famille habite là-bas, en fait. Mon frère avec sa femme, avec son enfant, et mes parents, et mon oncle, ma tante. Donc ils adorent cet endroit. En fait, c'est le centre où je reviens parce qu'il y a ma famille. Mais si moi, je vais revenir là-bas, je ne pense pas.
Timour, c'était à l'école russe pendant les 12 années de sa scolarité. Mais il faisait partie d'une des rares classes expérimentales où il y avait une formation lettonne plus approfondie que dans les autres établissements russes.
J'étais dans la formation russophone. Par exemple, moi, je connais tous les chansons russes pop, parce que mes parents le regardaient. On a toujours été dit à l'école qu'en fait, vous devez protéger votre identité, et non, la langue letton, vous ne devez pas aller, genre, il faut apprendre que dans sa langue maternelle. C'était un peu un brainwashing à l'école. J'ai compris, quand je suis sorti de l'école, je suis allé à l'université, j'ai compris que, en fait, on était assez limité de manière de voir les choses, parce que c'était l'école russe. Là, vraiment, l'université m'a donné une autre vision sur les choses. Et j'étais content de sortir de cette boule-là. de voir un fresh air, de l'air frais. C'est le mix qui est un de moi, c'est assez intéressant au niveau culturel, mais il y a parfois que les Lettons, genre, tu connais pas ça? Je dis, ah, mais non. Bien sûr, quand je vais, par exemple, à Saint-Pétersbourg, qui absolument est un pays un peu différent, mais que je connais parfaitement leur langue et leur culture aussi, parce qu'à l'école, on étudiait toute la littérature, en fait, la langue russe, c'était important pour nous.
Timur s'est ensuite fait un Erasmus en France.
En fait, c'est là-bas où j'avais la crise identitaire un peu, puisque il me disait, tu viens de Lettonie, tu es letton, mais j'ai pensé que je savais que j'ai letton, mais c'est parti russe. En fait, les questions étaient très simples. Il m'appelait comment je m'appelle. Et en fait, mes parents m'ont donné le nom russe. Bon, russe, en russe, ça s'appelle Timur. Mais en letton, on lettonise, si je peux dire ça. Donc, on doit dire Timurs. Mes parents n'ont pas imaginé que je vais transformer mon nom avec Timurs. Bien sûr, quand elle parle avec moi, elle me parle Timur. Mais là, quand c'est un peu les questions identitaires, mais que j'ai appris en France, en fait. Quand j'ai vu la France, ça m'a frappé ce qui se passe en Lettonie. Et là, j'ai vu pour la première fois quelles sont les différences, comment vit le pays qui ne connaissait pas genre, l'occupation pendant 50 ans. J'ai compris mieux mon pays moi-même. Que l'histoire était assez rude avec nous, parce que dans les années 20, dans les années 30, la Lettonie était au même niveau que les pays scandinaves. Mais dans 50, on s'est retrouvé à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire de recommencer le pays? Et je me sentais un peu injuste par rapport à l'histoire.
C'est intéressant, tu utilises le mot occupation, ce qui est, il me semble, pas toujours le cas pour les russophones, qui verraient ça plutôt comme, disons, une cohabitation ou...
Oui.
Cette période donc de présence soviétique sur ce territoire. Donc ça veut dire que toi, tu as un regard un petit peu critique de cette période de l'URSS. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas.
Je pense que c'était une grande catastrophe, l'occupation de l'Union soviétique de Lettonie. Là où je travaille, ici c'était les années 45, 46 ou après la guerre, j'aurais été en Sibérie. Et les scientifiques, les gens de culture, en fait tout était... rasé pour faire un autre pays. Donc, est-ce qu'on peut justifier ça? Non, pas du tout. Et le fait, bien sûr, que mes grands-parents sont venus ici, oui, c'est le fait historique. Je dois accepter ça. Moi, je suis produit de l'occupation de Lettonie. Je pense que moi, je peux rien faire avec ça, mais je peux être conscient.
La cohabitation entre les communautés russes et lettonnes se passe globalement bien. Mais les choses peuvent se tendre chaque année aux environs du 9 mai, date symbole qui divise. Les russophones fêtent en grande pompe la capitulation de l'Allemagne nazie face aux soviétiques et affichent fièrement leur attachement à la Russie. Pour les lettons, le 9 mai marque avant tout le début de l'occupation soviétique qui va durer jusqu'à l'indépendance en 91. Pour comprendre l'ambiance de ces commémorations, voilà un medley d'archives vidéo privées tourné entre 2009 et 2015 et trouvé sur YouTube.
C'est la fête des quoi que, en fait, un tiers des populations ont été tuées et rasées de mon pays où j'habite maintenant. Je pense pas que c'est bien. Je trouve que c'est assez barbare. Mais ça doit pas être la fête comme c'est présenté, comme très chauviniste à mon avis, des drapeaux russes et impérialistes russes. Des regards d'aujourd'hui.
Timurs me dit qu'il serait curieux d'entendre ce qu'en disent ses parents.
C'est assez compliqué, mais ils vont là-bas. Moi, je n'accepte pas que je peux aller là-bas, donc c'est pas possible pour moi.
On le fera après le disque proposé par Djoubaka, et aussi, on ira voir la mer. Ce sera après Aldous Haring, The Barrel. I feel your love. I feel time is up. I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. The ties or a hand are
beaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone.
Vous écoutez l'émission Full Continental sur France Inter et sur RTBF La Première. On parle dans cet épisode des jeunes russophones de Lettonie, descendants de familles russes donc, arrivés à l'époque soviétique ou avant, mais qui depuis l'indépendance du pays gardent un statut un peu à part, ce qui a un impact sur leur rapport à la citoyenneté et à la politique. Récemment encore d'ailleurs, le pays a été secoué par l'héritage de cette histoire soviétique. Car après une longue bataille judiciaire, la Lettonie a décidé de publier une liste d'anciens collaborateurs lettons du KGB. Les noms de plus de 4000 personnes ont été révélés sur le site des Archives nationales, c'était en décembre 2018. Et cette question d'ouvrir ou pas les archives se posait déjà en 91, au moment de l'indépendance. Que faire des sacs de la Tchéka, ces sacoches et mallettes remplies de dossiers laissés par la police secrète soviétique ? Ces dernières années, ces documents posaient de plus en plus questions. On se demandait s'il fallait les ouvrir et c'est le Parlement letton qui a finalement décidé l'année dernière de les rendre publics. Cette décision a remué le pays qui est loin d'avoir terminé son travail de mémoire. Je demande à Timours s'il est allé consulter les listes.
Absolument, je suis intéressé à ça et parce que mon grand-père, qui venait de Biélorussie, il avait un poste très élevé. Il travaillait à Nantes aussi, il travaillait à Tchécoslovaquie. J'en étais sûr qu'il travaillait avec les agences, ou soit KGB, soit qu'est-ce que c'était, et comme il partait à l'étranger. Donc, c'était clair qu'il avait un lien. Bon, parce que je cherchais dans les listes s'il est à ma famille. J'ai pas trouvé son nom. Après, j'ai posé cette question à mon père et ma mère. Pourquoi? Bon, je n'ai pas trouvé. La réponse était, écoute, c'était pas avec KGB qu'il travaillait, c'était déjà avec l'armée qu'il devait donner des retours. Mais au niveau culturel, il y a beaucoup d'intellectuels ou des chercheurs qui devaient travailler, coopérer avec KGB. Puisque si tu veux aller à l'étranger, tu devais leur dire des choses. Et on a beaucoup de gens de culture très connus en Lettonie qui sont dans cette liste-là. Mais je comprends les gens qui travaillent avec KGB comme ça. On avait peur, pour ma génération, on avait peur ce que ça va devenir s'ils vont sortir, les listes vont sortir, sans réflexion, sans recherche, que ça va poser plus de questions qui peut... It can harm people.
Ça peut blesser, heurter les gens.
Je suis assez content qu'en fait, il n'y avait pas un si grand mouvement de la haine. Il y en avait, je connais les gens qui étaient posés sur Facebook, genre, oh, c'était mon prof, comment elle pouvait enseigner quand elle était collaborée avec KGB. Je dis, mais écoute,
il
n'avait pas de choix.
Waouh, toute la famille.
Toute la famille qui est arrivée.
Bonjour.
C'est ma mère.
Enchantée. Nice to meet you.
Timur s'habite à Lepaya et sa famille est en visite pour le week-end. Il y a sa mère et son père et aussi sa tante côté paternel, tous sont russophones de Lettonie. Il y a aussi le mari de sa tante qui lui est russe. Je leur explique les règles du jeu de l'interview radio. Il faut être très proche.
Voilà.
On va se partager la traduction avec Timur. Les parents et la tante de Timur affirment tous qu'ils parlent letton. Timur, en même temps qu'il traduit, me fait des signes pour me dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Non, selon lui, ses parents et sa tante ne sont pas du tout bilingues. Quant à son oncle, qui est arrivé de Russie dans les années 80, lui ne parle pas du tout letton. Il comprend un peu. Je leur demande comment ils expliqueraient à quelqu'un comme moi cette situation des deux communautés qui cohabitent. Quand j'étais à l'école, dit la mère de Timur, les gens nous disaient qu'on n'avait pas besoin d'étudier les langues. L'anglais, tu peux de toute façon pas sortir du RSS, donc t'en as pas besoin. Le letton, tout le monde parle russe, donc pas besoin non plus.
Bon, ce que dit mon père, c'est la politique qui était injuste au début des 90, quand la Lettonie a obtenu l'indépendance vers la communauté russe.
Oui, donc il y a eu des injustices au moment de l'indépendance.
Oui, je ne sais pas ce qu'il veut dire là, sur ça, mais oui, il pense ça.
Quand tu включаешь телевизор,
quand tu regardes la télévision, dit la mère de Timur, tu vois bien que les informations cherchent à diviser les deux nations. On le sent bien, ça.
Pour lui, mon père, les visions des politiques sur les minorités nationales, ils doivent être plus... Ils utilisent le mot « loyal ». Loyal pour les minorités nationales, donc...
Moins critique, moins...
Pas assez agressif.
Quand est-ce que vous êtes senti agressé?
Quand on dit, par exemple, que les Russes doivent aller habiter en Russie, pas en Lettonie, ou quand on dit, par exemple, doit fermer les écoles russes. Ce qui dit que si vous n'aimez pas ici, donc vous partez, vous devez quitter le pays.
Sa mère, elle, dit qu'avant elle se sentait plus proche de la Russie, mais plus le temps avance, plus elle se sent proche de la Lettonie, et donc de l'Europe. Mon frère, dit la mère de Timur, habite à Moscou, et on a cessé de parler de politique. Il vote pour Poutine, et on ne comprend pas pourquoi. L'oncle paternel de Timur, qui est russe et qui est assis là avec nous, est lui aussi plutôt favorable à Poutine.
Poutine est un président d'un grand pays, donc la Russie doit être un pays fort, surtout en relation avec les pays comme la Chine, les États-Unis, la France aussi, et que ça doit être, avoir l'opinion forte. Et les gens voient que, en fait, Poutine est un président très fort, il est très stable, ils sont sécurisés, donc pour ça, ils votent pour Poutine.
Même si économiquement, aujourd'hui, ça devient très compliqué sous Poutine.
Il a dit que ça s'améliore.
Ça s'améliore.
S'améliore économiquement.
Timur voulait leur poser la question des commémorations, on peut dire célébrations, pro-russes du 9 mai. Alors ils répondent oui, on participe, parce qu'on a du respect pour cette victoire de l'Union soviétique face aux nazis. Beaucoup de familles ont souffert ou ont été tuées pendant la guerre. Mon arrière-grand-père, par exemple, est mort en défendant la Lettonie. La mémoire est profonde dans nos cœurs, on a un immense respect pour eux, et on veut commémorer. Il faut montrer du respect. Et eux, ils vont avec des drapeaux, ils chantent, ils dansent.
У нас, я не знаю, кто там танцует и поет.
Почему мы ходили, Макаревича слушали.
Ça dépend déjà, parce que c'est difficile. En fait, on apprend le fleur et parfois on écoute les chansons patriotiques, parfois les chansons dans le concert. Donc pour mon père, plutôt c'est que les fleurs, donc, mais bon, il y a le débat maintenant.
D'accord.
Ma mère, elle a appris sur le letton à travers la littérature, parce qu'elle n'est pas letton. Elle lit des traductions des livres russes qui étaient traduits. Elle a compris qu'en fait, la situation était si compliquée sur les déportations, sur l'histoire, qu'elle a commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Avant, comme elle a dit, qu'elle ne savait pas que, en fait, pourquoi des lettons, en fait. Elle ne savait pas même qu'il y avait le pays, à mon avis, elle ne savait pas qu'il y avait le pays avant que l'Union soviétique venue ici. Ce que je dis, qui est l'histoire, les connaissances d'histoire des russophones, n'est pas si fort comme ça doit être.
Donc ta mère, tu penses qu'elle ne savait pas que ça avait été un pays indépendant à une époque?
Il est fort possible, oui. Ou que c'était la bourgeoisie qui a englouti la population letton et finalement le letton s'est libéré avec l'entrée de l'Union soviétique. Ça, c'était plutôt comme ça l'interprétation de l'histoire.
En Lettonie, il y a des partis russes et des partis lettons. Timours me dit que ses parents votent sans doute pour le parti Harmonie, un parti proche de Vladimir Poutine, avec qui il y avait jusqu'en 2017 un traité de coopération. Le parti est arrivé l'année dernière en tête des législatives avec 19,8% des voix, mais n'est pas parvenu à former une coalition majoritaire, les partis lettons refusant de faire alliance.
On a pensé peut-être de voter pour les lettons, mais on choisit de voter pour les russes.
Parce que vous avez la sensation que ça va défendre vos intérêts de communauté ?
Non,
en fait,
parce qu'ils sont pas d'accord avec
l'un de l'autre.
Le père et la tante de Timours disent qu'ils ne votent pas pour Harmonie pour des questions linguistiques ou de communauté, mais qu'ils votent pour ces partis russophones pour les questions économiques et de stabilité. Timours m'explique que oui, en Lettonie, il y a décidément deux nations qui cohabitent.
Il y a la différence avec la France que la notion de citoyenneté et nationalité est séparée. Ça veut dire que tu peux être citoyen de Lettonie, mais tu peux être russe, biélorusse, ukrainien, français et letton. Mais nationalité, c'est ça. La nationalité, c'est je suis russe, je suis letton, mais tu peux être russe, mais citoyen de Lettonie. Au niveau des gens, peut-être assez bien, mais au niveau des politiques, c'est vraiment, ils sont intéressés de faire la division entre deux nations parce que politiquement, c'est bien intéressant. Et c'est pas très très bien. Et aussi, bien sûr, les nationalistes lettons, en fait, ils disaient voter pour nous parce qu'on va chasser des Russes. Et des Russes disent voter pour nous parce qu'en fait, on va garder, protéger votre culture russe. En fait, c'est comique.
C'est quoi être letton?
Что означает быть латышом?
Жить в этом государстве, любить эту страну.
C'est très philosophique, très compliqué à répondre, mais c'est tout à fait habiter dans ce pays et d'aimer ce pays.
Ta mère, elle fait non avec la tête.
Ma mère a répondu de voir les parents qui sont des lettons.
Oui, et ton père n'est pas d'accord.
Ouais, les lettons, elle demande est-ce que tu es letton? Dit oui, je suis letton, mais non, mais je sais pas, mais je. Oh, c'est compliqué. Non, mais c'est. Les complexes. Ce sont des lettons.
Ton père fait un signe avec la main.
Habitante de Lettonie, mais pas letton. Et ma tante est lettonne, mais lettonne russophone.
D'accord.
C'est compliqué, donc elle rigole.
Ok. Et toi, tu es letton?
Oui. Complètement, 100%. Qui parle russe, ce qui est bien, mais je parle aussi anglais, je parle français, je communique avec ma famille en russe, mais je suis letton, c'est clair. Fait ce qui se passe en Ukraine, je ne soutiens pas ça, et je suis complètement, strictement pas d'accord avec la politique de Russie, ce qu'on fait là-bas, donc c'est vraiment la différence entre moi et mes parents. Peut-être, plutôt je suis beaucoup plus critique de ce qui se passe en Russie qu'eux, mais je ne sens pas ce lien que eux sont avec ce pays-là, mais je comprends aussi parce qu'il y a en fait toute l'information que j'ai l'accès qu'ils n'ont pas, Je trouve en fait que c'est très vague, en fait, des problèmes des russophones en Lettonie. Je ne trouve pas qu'ils trouvaient des exemples qu'ils pouvaient donner, parce qu'en fait, quand on pose qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est juste plutôt dans les rhétoriques et pas dans les actions. Parce que sinon, on a vraiment, par exemple, le théâtre russe qui est financé par l'État, on a les médias russes qui sont financés par l'État, on a des écoles russes qui sont financées par l'État. En fait, les minorités, qu'est-ce que vous voulez plus encore, mais c'est plutôt vraiment émotionnel que rationnel à mon avis. C'est juste, c'était le sentiment que j'ai eu, parce qu'en fait, on n'a jamais eu cette conversation avec ma famille qu'on a parlé maintenant.
Спасибо.
Ma mère, elle a fait un petit cadeau.
Oh non.
Oui.
Oh, oh là là. Waouh. Mais elle l'a fait elle-même.
Des chaussettes tricotées maison, aux couleurs de la France, en haut bleu, au milieu blanc, en bas, au niveau des orteils, rouge.
L'amitié des nations.
Waouh. Ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Je voulais voir la mer avant de partir, or il pleut fort. Timours me commande un taxi. Sur la route de la plage, il y a des dizaines de vieilles maisons cossues, parfois à l'abandon. La chauffeuse de taxi s'arrête près d'un chemin, elle pointe du doigt, elle dit
« Si ».«
Si is this way ». »«
Yeah, yeah, yeah.
Okay. »
La mer est là, et comme à Knokloussout, elle est vaste, avec des dunes. Comme d'habitude, évidemment, difficile de capter l'ambiance de la mer sans se mouiller les pieds. Mais ici aussi, sur cette plage, on n'échappe pas à l'histoire. J'ai appris récemment qu'en 1941, plus de 2700 juifs avaient été exécutés par balles puis jetés dans des fosses communes ici même. Le travail de mémoire sur la période nazie et la collaboration lettonne en est lui aussi à ses débuts. Dans un article de L'Humanité paru en 2014, je lis que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est un sujet brûlant. Les nationalistes lettons estiment que les 140 000 légionnaires enrôlés par l'armée nazie sont des héros de la lutte contre l'Union soviétique. Tous les 16 mars, d'anciens membres de la Légion SS, créée en 1943 par les occupants nazis, traversent le centre de Riga. Timours me propose de prendre le dernier bus pour Riga. Comme ça, j'ai juste le temps de voir la première partie du concert. Il me dit qu'il a aussi retrouvé les photos de ses arrière-grands-parents dont il parlait tout à l'heure. On les mettra sur le site. Et effectivement, la différence est grande entre, d'un côté, ses grands-parents lettons, endimanché à la mode parisienne, et de l'autre, les grands-parents russes, habillés pour les champs. Timours me dit « Je ne pense pas que les Lettons ont aimé voir arriver les Russes. Il y a une blague qui circulait à l'époque, que les femmes des officiers russes ne savaient pas s'habiller. Et donc qu'ils allaient à l'opéra, dans des robes de nuit. » Merci à Timours pour son accueil, et à ses parents pour la belle paire de chaussettes. Merci à vous pour votre écoute, merci à Clément Baudet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage, qui est assistée de Constance Cabouret. Merci à Claire Brault pour les illustrations, qui seront sur la page de l'émission Full Continental sur franceinter.fr et sur la RTBF avec plein de liens. On mettra tout ça aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Lundi, Full Continental sera en kiosque dans la double page de Libération, qui est consacrée aux élections européennes et qui le sera tous les lundis jusqu'en mai. Belle semaine à tous et à dimanche prochain.